C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui dans notre quatrième session donc, des Midi de la Recherche, Kai Mikkonen, qui est donc le chercheur invité ce mois de janvier ici à l'ENSIB. Il est donc de l'université de Helsinki en Finlande. Et donc vous avez peut-être déjà pu l'entendre hier soir et vous pouvez l'entendre également demain, lorsqu'il discourra plus au long de ce thème. Mais aujourd'hui, on va parler d'un de ses ouvrages les plus récents, The Narratology of Comic Art. Donc voici en noir et blanc le titre qui est réellement en bleu, publié chez Routledge donc, en 2017, je crois, si ma mémoire est bonne. Et dans lequel donc il développe des thèmes qui sont très intéressants, ont une portée large. Je pense pour certes le domaine de la bande dessinée, mais même au-delà. Et donc je vous propose que l'on parle de tout ça et peut-être pour commencer partir d'un élément personnel puisque votre livre commence avec un élément très personnel.
Oui.
Vous expliquez en fait comment vous êtes venu à la BD et en fin de compte, c'est extrêmement jeune.
Alors, premièrement, bonjour à toutes et à tous. Comme vous entendez bien, je parle français avec un certain accent et je vais faire des erreurs, ça c'est certain, mais pourtant, je peux dire que parler français ne m'inquiète pas. Donc, c'est peut-être vous qui sont inquiétés par mon français, mais pour moi, ça va très bien. Donc, et c'est un grand plaisir d'être dans votre bibliothèque ensoleillée, parce que après plus ou moins 2 mois sans le soleil, c'est ravissant, vous pouvez vous imaginer. Donc, revenir à votre question. Donc, quand j'étais enfant, juste des mémoires très personnelles qui sont liées à la lecture des bandes dessinées. C'était une des rares occasions quand mon père a passé du temps avec moi d'une façon, par une manière intime. Donc, il a voulu me faire apprendre comment lire, apprendre à lire le finnois. Et sa méthode était de lire des bandes dessinées ensemble, des phylactères. Donc, c'était une ancienne méthode qui est très inefficace en fait. Donc, parce que il a voulu marquer les syllabes dans les bulles, dans les textes du boule de phylactère. Donc, il a marqué les traits d'union dans tous les mots. C'est une ancienne méthode comment apprendre à lire en finnois. Et je n'ai peut-être rien appris, mais quand même, c'est une mémoire très charmante que j'ai eu de mon père qui est passé il y a longtemps. Et donc, ces moments que j'ai passé avec mon père en lisant des bandes dessinées, il a essayé de m'apprendre, me faire apprendre le livre quand j'avais peut-être 4 ans, 5 ans, vers cette ère de ma vie, ma jeunesse. Donc, c'est voilà. Et donc, c'est pas que j'ai appris à lire par le biais des bandes dessinées, mais c'est quand même ma mémoire que c'est le cas, que c'était les bandes dessinées comiques traduites en finnois qui m'a permis d'apprendre à lire en finnois. Donc, ce sont mes mémoires et je commence à ce livre avec cet aspect très, très personnel. Et les mémoires avec mon père. Et après, je les laisse à part, mais c'est la logique. C'est une ambition dans ce livre. Il y a deux grandes ambitions que j'ai eues en écrivant. C'est en planifiant ce livre, j'avais l'ambition d'essayer de décrire le charme et l'attrait des bandes dessinées par le biais de la théorie narratologique. Parce que j'ai essayé de trouver des moyens par lesquels je pourrais m'expliquer pourquoi la bande dessinée la narration par le biais de bande dessinée est tellement charmante et attirante et effective, tout cela. Donc c'était une des deux ambitions. L'autre était plutôt théorique.
Et cette ambition théorique tourne autour en fait de la puissance du récit et de son rôle, ce qui en fin de compte est un bon lien avec l'apprentissage par le récit également. Et là donc vous retombez sur un champ qui est un champ d'abord développé dans les sciences littéraires classiques depuis la fin des années 60, les années 70, et qui tourne autour donc de l'idée d'utiliser le récit comme ou de voir le récit comme un outil. Un outil qui permet donc de gérer l'intangible, de gérer les questions de temps, de durée, de changement, de procédure, etc. Et de le mettre en fin de compte dans une étude qui est différente hein, de comment on peut se servir du récit que, par exemple, des données statistiques, des arguments, etc. Et ce rôle du récit pour décrire l'expérience, mais également pour comprendre quelque chose, vous le développez ici donc. Dans le domaine de la bande dessinée, alors que bien sûr, les ouvrages de base sur ce domaine, c'est des gens comme Barthes, c'est Todorov, c'est l'analyse à la recherche du temps perdu de Proust. Et là, vous l'appliquez à la BD. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre ce champ théorique littéraire et de le confronter à un genre très différent?
Voilà, c'est une longue histoire parce que ma formation est à part. C'est partiellement, c'est en narratologie. Le directeur de ma thèse de doctorat était un connu, il était reconnu en tant que Nabokovien, un narratologue Nabokovien. Donc, ma formation était en narratologie. Mais j'ai toujours étudié la question de dynamique entre le texte, l'image, les mots et les images. Donc, j'ai travaillé et j'ai lu toujours des livres d'images, des bandes dessinées. Je me suis intéressé à la question de l'illustration, etc., de la description. Tout cela, c'était un de mes intérêts au cœur de ma carrière en tant que chercheur. Mais donc, j'ai écrit ma thèse de doctorat sur la question de la métamorphose dans la prose contemporaine. C'était du perspective narratologique. Et donc, j'ai eu ce dialogue avec mon directeur et tout cela. Mais après, je me suis heurté à cette question. Comment peut-on penser la bande dessinée à travers la narratologie, parce qu'il y a des défis qui sont très évidents, que tous les concepts fondamentaux de la narratologie ne fonctionnent pas par la même manière. Et c'était fascinant, cette question. Faire des trouvailles, essayer de décrire la crise de la narratologie en face des bandes dessinées, ou les défis de la narratologie en face de la bande dessinée. Parce qu'il y a des limitations évidentes. Voilà, l'importance, à partir de l'importance de la montrance, de montrance, à monter, raconter pas, en montrant des images, au lieu de tout raconter verbalement. Donc voilà. Et toutes sortes d'autres défis, la question du style graphique et tout cela m'intéressait. Donc aussi, j'avais l'ambition, mon autre ambition était théorique, c'était d'essayer de développer la narratologie par le biais de ce rapport avec la bande dessinée et la narration multimodale, où on utilise où la dynamique entre le texte et l'image est cruciale, qui est très, très, très éloignée de prose moderne, où les condescendants, les points de départ pour Jeannette Todorov, c'était toujours là, c'est la prose moderne, Proust et d'autres. les exemples du 19e siècle, du début du 20e siècle, tous les écrivains et les grands romans de nos jours. Donc, cela se défie. Donc, je vais à ma formation dans la littérature comparée, mais aussi j'étudiais l'histoire de l'art et j'ai toujours lu des bandes dessinées, des livres d'images, etc. Donc, c'était une combination qui me venait très naturellement à l'époque.
D'accord. Et en fait, on retrouve cette volonté d'appliquer les grandes idées donc de la narratologie dans la structure de votre livre pour garder des questions comme le temps, le style graphique, la transmission par le récit, mais également donc la façon dont la parole et la pensée se retransmettent dans ces éléments et aussi la forme même du livre. Et là, bien sûr, vous êtes sur quelque chose qui est complètement, je dirais, novateur par rapport aux analyses précédentes du livre, puisque vous êtes en train de considérer, en fait, la mise en page pour la publication même de l'ensemble, la taille des éléments, etc. Donc, vous essayez de tout de suite ajuster, en fin de compte, les idées à votre objet, vous cherchez, en fin de compte, à établir une certaine flexibilité d'approche. Si vous aviez, en fin de compte, à retenir deux, trois leçons de ce que, pour vous, vous puisez, du coup, comme conclusion à partir de cette rencontre d'une théorie et d'un objet, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous pensez sont les grands apports?
Il y en a tant. C'est difficile à choisir. Les leçons les plus importantes. Mais une leçon était qu'on ne peut pas éviter la question de l'histoire. Donc, j'y arrivais dans le dernier chapitre à la question de l'histoire de développement de la bande dessinée pendant le 19e siècle et les formats de publication du début du 19e siècle en Angleterre surtout. Donc, je fais des recherches avec. J'ai écrit ce livre en fait en Angleterre. J'avais j'ai profité d'une année à l'université de Cambridge. Donc, j'ai pu me concentrer pendant 11 mois sur cette recherche. Et j'ai presque fini tout le livre en ce temps. Et j'ai beaucoup profité de l'occasion de visiter tous les archives à Cambridge et à Londres. Donc j'ai visité la British Library et la bibliothèque de l'université de Cambridge. Ça m'a permis de voir et avoir accès à et voir par mes propres yeux ces documents du début du 20e siècle, qui était formidable d'avoir tous ces journaux d'illustration, cette exploration et invention à l'époque dans ce domaine de la publication. Donc une leçon était que je suis arrivé à la question de l'histoire et donc là, comment penser à travers la question du rapport entre les formes de narration et le format de publication. Et voilà. Et comment ces deux choses sont proprement liées, que la question se pose comment ça se passe qu'il y a un certain support, un format de publication qui devient possible, qui devient actuel, qui permet d'avoir de nouveaux approches dans un certain moyen d'expression et genre d'expression. Donc c'est une leçon que je dirais que c'est une des conclusions où je me suis trouvé à la fin de cette exploration. Mais il y en a d'autres, donc j'ai continué à faire des recherches, même que à l'époque, je pensais que tout fait que c'est fini avec la narratologie et la production de l'art. Mais en fait, il y avait une recension qui était très touchante par une collègue américaine qui a travaillé avec Chris Ware, ou peut-être vous connaissez ce nom assez connu de nos jours. Donc, Jean Braithwaite, c'est une professeure du Texas aux États-Unis qui a écrit une recension de ce bouquin qui m'a beaucoup touché parce qu'elle était tellement elle s'est engagée tellement bien avec mon livre. Elle a eu des aperçus que je n'ai pas remarqué. Donc, elle m'a proposé un concept pour ce que je viens de dire dans ce livre, mais faire plus évident mes idées, il m'a proposé une notion. Et donc, on a beaucoup de discussions par mail, mais après on est arrivé à écrire ensemble un article sur cette notion. Et on a donné deux présentations ensemble à Lausanne, au Lausanne et à Tbilisi, Géorgie, l'été dernier. C'était formidable. Et donc, cet article vient d'être publié juste le mois dernier, en décembre. Et la notion est la solidarité figurale, dont je vais parler demain. Donc, mais c'est l'idée qu'elle m'a dit que Kai, tu as des bonnes idées, mais tu manques le nombre de tes idées. Et voilà, c'était une leçon importante aussi qu'elle m'a appris à identifier mes idées par ce nom. Voilà.
Mais c'est très intéressant parce qu'en effet, vous tirez sur beaucoup d'exemples très variés, sur des temps très variés, partant donc des journaux satiriques type Punch, en effet, donc à la fin du 19e, en allant complètement vers l'hypermoderne et dans des cultures très différentes. Une chose sur laquelle vous touchez très peu, c'est la place de comment, en fait, on peut recevoir ou tempérer, limiter cette interaction en tant que lecteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous décrivez beaucoup la mécanique du fonctionnement, comment le comprendre, comment c'est mis en place, comment on peut l'analyser. Mais vous admettez vous-même à plusieurs moments que, en fin de compte, la bande dessinée a des limitations comme tous les médias, et notamment donc l'idée que le lecteur peut ralentir, accélérer, regarder une chose ou une autre. Comment est-ce que vous pensez que ça influe en fin de compte sur cette idée de narratologie qu'il y a un filtre? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse à développer, ou est-ce que c'est quelque chose que vous dites vous laissez aux autres pour le gérer? Parce que clairement, en fait, entre la volonté de créer la narration et celle qui est lue, reçue, prise, il y a une marge.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est une limitation de cette approche narratologique. Dans la narratologie, les narratologues souvent utilisent des agents imaginaires des lecteurs, qui sont des lecteurs idéaux, lectrices idéales, qui sont souvent juste le chercheur lui-même, qui est le modèle lecteur. Lecteur modèle. Donc c'est une véritable limitation, mais donc, c'est aussi une leçon que je tirais en fait de cette étude. Mais c'est une question fascinante parce que, donc, comme vous avez parlé ensemble avec mon collègue Pascal Robert, qu'est-ce que c'est qu'une lecture vis-à-vis de bande dessinée? Est-ce qu'on peut parler de l'acte de lire ou de l'acte de voir ou de observation visuelle? C'est un étrange mélange de différents types d'activités. Donc, une leçon était que je me suis senti un peu limité aussi vis-à-vis de la question de la lecture dans cette recherche, cette période de recherche. Et après, on m'a proposé, j'avais quelques collègues de l'université d'Helsinki dans le domaine de la traduction, m'a proposé de faire des expérimentations oculométriques avec des lecteurs, lectrices réelles. Donc on a eu l'occasion d'avoir on a fait une expérimentation avec 22 étudiants qui lisaient des doubles pages de bande dessinée. Et ça fournit énormément de données concernant les mouvements des yeux qui sont des indications de quelque chose. C'est difficile à dire quel type d'indication il s'agit, mais quand même, ils sont des indications quand on voit le mouvement des yeux, le saccade, la fixation, tout cela. Et c'était passionnant. Mais on a aussi vu après cette étude qui était quelque chose qui m'a. Parce que c'était important par cette manière que la théorie narratologique souvent vient avec cette présupposition, ce qu'il se passe dans la lecture et qu'est-ce que les lecteurs, lectrices font en lisant des livres. Il y a toutes sortes de présuppositions qui sont souvent liées juste sur ce modèle imaginé d'un lecteur idéal. Ou idéaux. Mais dans ce cas, si on fait des tests oculométriques, il y a d'autres types de défis qu'on rencontre, la question comment interpréter toutes ces données qui sont là, des données empiriques, des mouvements des yeux. Ça se dit quoi, les mouvements des yeux? Mais ils sont différents de ces mouvements. Ils sont aussi ça, pareil au mouvement des yeux quand on lit un livre, parce qu'il y a le chemin Z qui est le même. C'est la logique qui est la même, mais quand même il y a des saccades et des choses qui se passent qui sont tout à fait différentes de lire quand on lit un livre de texte, donc basé sur le texte. Voilà. Donc c'était une leçon. J'étais tout conscient de la limitation de la narration. Je suis au ce niveau de présupposition vis-à-vis de la lecture.
Donc, pour en venir à la formation du livre, donc, alors évidemment, c'est un livre qui est illustré. Hein, il y a des choix d'images, d'ailleurs, qui couvrent un peu l'éclectisme de vos sources dans leur variété. Et je me suis demandé, là, en fin de compte, dans une masse aussi grande, comment est-ce que vous avez fait pour faire vos choix? Vous avez fait des choix en fonction de ce qui vous plaisait? Est-ce que vous avez eu surtout des contraintes d'éditeur aussi, hein, reproduire une image de Punch donc du 19e, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Mais je sais notamment que dans le domaine de la bande dessinée, très souvent, il y a des accès difficiles même au droit de citation. Ouais. Et donc... voilà. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé dans ce que vous avez pu mettre ou pas mettre dans ça je dirais, est-ce que c'est des choix purement de ce que vous avez découvert ou est-ce qu'il y avait des choses réellement qui sont pour vous des choses qu'il fallait absolument mettre, qui étaient des incontournables?
Oui, bonne question. C'était... c'est pas exactement clair. J'ai eu des idées, bien sûr. Il faut commencer à dire que une recherche sur la bande dessinée sans image est nulle. presque nulle. C'est très difficile à communiquer des idées de recherche sans les images. Il y avait toutes sortes de contraintes qui étaient imposées sur mon projet par la maison d'édition. Malheureusement, on m'a dit que tu ne peux pas avoir des images en couleur. Tu peux peut-être avoir 50 images, 70 au maximum, mais tu peux tout payer toi-même si tu, pour avoir de trois de reproduction. C'était tout à fait limité. Donc, c'était là. Le champ de choix où j'ai pu faire des choix. Donc, c'était un peu limité. Mais toutes les images que j'ai utilisées il y en a 50, plus ou moins, j'ai choisi pas moi-même qui était. Mais j'ai dû laisser tomber une quantité semblable, pas pareille, de 50 que j'aurais voulu utiliser dans ce livre, mais ce n'était pas possible. Donc, c'est très tragique, je dirais. Mais quand même, j'ai voulu aussi faire trouver un certain équilibre entre les différentes langues d'expression en anglais, en français, en finnois. Peut-être il y a peut-être aussi d'autres langues, en allemand, italien, mais surtout je me concentre sur la tradition européenne plutôt que l'américaine. Mais voilà, c'était un mélange de choses. Je commence avec une adaptation d'un strip qui était refait par mon ami qui est un dessinateur de bande dessinée, Matti Hagelberg. On l'a planifié ensemble que si je veux commencer avec cette mémoire personnelle de comment j'ai appris à lire avec mon père, il faut trouver un strip qui va avec cette mémoire. Et donc il m'a proposé de refaire un strip. Ça se trouve dans le début du livre. Et donc c'est quelqu'un avec qui j'ai aussi enseigné un cours sur la bande dessinée. Donc c'était ça. Ce choix était évident qu'il faut avoir quelques exemples par mon ami Matti aussi dans ce livre. Donc c'est une étrange sélection de choses, de mes lectures, d'autres choses.
D'ailleurs, c'est intéressant, vous n'avez pas choisi pour commencer un exemple en finnois.
Non.
Vous avez peut-être eu peur de faire fuir le lecteur, peut-être. Pour poser une dernière question, là, en tant que moi-même, donc historien, mais également quelqu'un qui écrit des livres, je note que vous avez esquivé la nécessité de faire une conclusion. Et que vous avez appris, mis à la place un afterword,
Ah,
un genre d'épilogue, un mot de fin, si on veut, plutôt qu'une conclusion. Et c'est drôle parce qu'en fait, vous avez des grandes conclusions qui tirent le long de votre
oui.
narration. Et je me suis demandé si c'était parce que vous voulez garder ça ouvert pour continuer à travailler dessus, ou si c'était parce que vous préfériez dire aux gens juste lisez mon livre complètement.
Oh, peut-être le premier plutôt, mais c'est une afterword qui est assez court, où je souligne le fait qu'il y a cette tension toujours dans la narratologie d'essayer de trouver quelque chose qui est généralisable et de la des narrations qui sont des. Les narratologues aiment faire les généralisations qui sont quand même basées sur les exemples individuels, sur une explication du texte très proche. Et voilà. Mais aujourd'hui, je pourrais peut-être changer le titre de ce livre. Parce qu'à l'époque, je pensais que il faut faire, il y a une niche ouverte pour faire une approche plus systématique, narratologique sur la bande dessinée, que personne ne l'a fait jusqu'à ce moment. Donc j'ai pensé que je pourrais peut-être utiliser l'article définitif au début du titre, la narratologie de la bande dessinée. Mais maintenant, peut-être, ça pourrait être juste simplement une narratologie. narratologie. Donc une approche qui est plutôt ouverte, qui est un test d'essayer de trouver un équilibre entre la théorie et la lecture et essayer de tester les concepts fondamentaux sans bâtir un grand système sémiotique quand même de la partie sémiotique. Voilà. Donc je reste un peu ambigu concernant mon choix de titre de nos jours.
Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter de vous persécuter et puis on va ouvrir aux questions.